France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et c'est un anniversaire qu'on va célébrer ce midi, un centenaire. Il y a 100 ans cette année, en 1925, apparaissait la première appellation d'origine et elle portait sur un fromage. Ce fromage, c'est le Roquefort, monument de la gastronomie française.
Alors, il est bon notre Roquefort ?
Pour moi, le Roquefort n'est bon que lorsqu'il est fait avec du lait de brebis.
Oh ! Monsieur, il dit qu'il aime le Roquefort que quand il est fait avec du lait de brebis.
Le Roquefort, c'est toujours fait avec du lait cru de brebis.
Pourtant, il me semble bien en avoir mangé qui était fait avec du lait de vache.
Alors, c'était pas du Roquefort.
Et c'était quoi, alors ?
Un fromage. Le Roquefort, il y en a qu'un au monde, alors...
Bonjour Delphine Carl.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous auriez dû être en studio, mais malheureusement, vous avez été retenue. Vous nous parlez depuis où, Roquefort, sur Soulzon, dans l'Aveyron ou ailleurs ?
À côté de Roquefort.
Vous êtes à côté de Roquefort. Vous êtes maître affineur, Delphine Carl, directrice de la maison Carl, fondée au début des années 1920 par votre grand-père. Nous sommes également avec Sylvie Vabre depuis Albi. Bonjour Sylvie Vabre.
Bonjour.
Merci beaucoup
Bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes historienne à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous avez fait une thèse sur l'histoire du Roquefort et de son industrie. Une thèse qui a été éditée en 2015 sous le titre « Le sacre du Roquefort » aux presses universitaires de Rennes. Je crois que malheureusement le livre est aujourd'hui épuisé. Mais vous y parliez de l'industrie du Roquefort de la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1925, année donc de l'appellation d'origine. On va bien sûr y revenir. Mais monument, Sylvie Vabre, de la gastronomie française, ambassadeur, le Roquefort, symbole de la France. On l'entendait là dans cette publicité de 1978. Bon, c'est un peu plus près de nous, mais c'est le deuxième fromage consommé en France après le comté. Et je crois que dès le XVIIIe siècle, Diderot en faisait le roi des fromages, le meilleur fromage d'Europe. Donc, monument de la gastronomie française.
Tout à fait, c'est un monument millénaire puisqu'on en a la trace au Moyen-Âge et c'est un des fromages qui a reçu, je dirais, rebondir pour devenir un fromage international dès le 19e siècle. Et ça c'est important, sa renommée est véritablement portée d'abord par les philosophes. C'est vrai que Diderot appréciait beaucoup le Roquefort. C'était un fromage un peu piquant, vous voyez, comme un esprit piquant, très travaillé, avec beaucoup de connaissances, car le lait cru, pour le travailler, il faut véritablement avoir des connaissances. Et donc, c'était un fromage qui plaisait beaucoup à Diderot, comme Voltaire d'ailleurs.
Vous dites que c'est un fromage millénaire, il en est fait mention dès le XIe siècle, je crois. Le fromage du Roquefort serait né, dit-on, d'une légende. Un berger qui mangeait tranquillement dans sa grotte aurait aperçu une belle et laissa son casse-croûte pour aller la rattraper. Et puis à son retour quelques jours plus tard, il a retrouvé son quignon de seigle et son cahier de brebis qui était toujours là. Mais l'un était recouvert de fines moisissures, l'autre marbré de verre. Et comme il était affamé, il a goûté et ce qu'il avait laissé là et il a crié au miracle. Ce serait l'acte de naissance du Roquefort. Sur cette légende, Sylvie Vabre.
Oui, alors écoutez, cette légende, elle est appréciée par tout le monde et tout le monde a envie d'y croire, effectivement. Et pendant longtemps, je ne m'y suis pas penchée parce que je m'intéressais plutôt aux livres de contes des affineurs. Mais elle est vraiment très intéressante parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que c'est hors du temps, mais que finalement, le Roquefort, le pain avec, donc le Roquefort et ce pain qui donne un pain, un moisi particulier au Roquefort, ben finalement il est mangeable. Et ça, je trouve ça, c'est extraordinaire, c'est une façon très simple de dire d'apporter des explications que l'on n'avait pas à l'époque où cette légende a été en quelque sorte mise au point et diffusée. Moi, j'en trouve trace dans la deuxième moitié du 19e siècle, notamment dans la presse de divertissement, où l'on va, et c'est une façon d'expliquer ce qui inquiète la population à l'époque, qui, est de plus en plus sensible à l'hygiène. Et là, on explique véritablement que le moisi est mangeable et que c'est normal parce que, en fait, il y a une histoire qui le prouve.
Ce moisi, c'est en fait le Penicillium roqueforti, un champignon hein, qui permet d'obtenir le bleu. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique du roquefort. Delphine Carne, vous en êtes l'incarnation avec la maison dont vous êtes la directrice, la maison Carle. Parce que je crois que vous avez la particularité de fabriquer ce Penicillium roqueforti.
Tout à fait. Tout à fait. Nous avons la particularité, comme vous dites, de continuer ce procédé traditionnel, ancestral, dans nos caves. Nous fabriquons des miches de pain à base de farine de seigle et de blé que nous mettons dans nos caves pour cultiver le Penicillium roqueforti. Voilà. Après, ce Penicillium roqueforti va être récupéré en découpant la mie de pain qui va être occupée par ce Penicillium roqueforti, découpé, séché, mis en poudre. Et c'est cette poudre que nous utilisons au moment de la mise en moule pour le Penicillium roqueforti. Voilà, c'est la méthode traditionnelle. C'est au moment de la mise en moule qu'on va saupoudrer le Penicillium roqueforti.
Donc en fait, c'est une sorte de pain brûlé et moisi, quoi, au final. Des miches de pain de farine de seigle et de blé.
Tout à fait. Des grosses miches de farine de seigle et de blé qui sont cuites à très très forte température pour qu'il n'y ait aucun germe, aucune bactérie à 100 degrés au cœur du pain. Donc ça fait une croûte complètement brûlée, très épaisse. Et donc, on va faire des petites cheminées où on va mettre le Penicillium roqueforti dedans et avec l'humidité des fleurines, des fleurines qui vont ventiler nos caves. Ce sont des failles et qui amènent un air frais et humide dans nos caves à longueur d'année. Et donc là, on a deux étages pour le roquefort et un étage pour le Penicillium, pour le pain.
Oui, alors ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, c'est à la fois une histoire, le roquefort, et une géographie, c'est une terre. Parce qu'en fait, vous avez parlé de l'action des fleurines, ces failles dans les grottes du plateau du Combaloux, où se situe d'ailleurs Roquefort sur Soulzon, dans l'Aveyron. C'est vraiment dans l'Aveyron, à cet endroit-là, sur cette terre aride, ventilée et humide, qu'on peut faire le roquefort, parce que c'est issu d'un éboulis du plateau du Combaloux, et c'est ça qui a permis la naissance du fromage. C'est vraiment étonnant, parce que c'est des endroits où vous vous baladiez quand vous étiez petite, hein, d'ailleurs, Delphine Carnes, ces balades dans les grottes et l'action des fleurines qui est ensuite reconstituée dans les conditions naturelles, dans les caves, en quelque sorte.
Oui, c'est les fleurines qui débouchent dans les caves et qui vont faire qu'on n'a pas besoin de climatisation, c'est naturel. Ce sont des tunnels et ces tunnels vont apporter cet air frais et humide. Donc vous pouvez venir au mois d'août, dehors il va faire 35-40 degrés et dans les caves on va toujours avoir une douzaine de degrés et une humidité constante. Et ça par 40 degrés à l'extérieur ou moins 5, moins 10, 0. Vous pouvez venir à n'importe quelle période. Nos caves ventilées par ce système de fleurides, un système de climatisation tout à fait naturel, ces failles vont amener cet air frais, humide, et toute l'année, nos caves vont être ventilées de cette manière.
Sylvie Vabre, un mot sur l'histoire, après la géographie, puisque tout ça est donc réuni sur un territoire bien particulier. Je crois qu'il y a 6 départements qui sont concernés seulement par le Roquefort AOP, disons. Justement, un mot sur ce centenaire de l'AOP Roquefort, appellation d'origine protégée. C'est étonnant quand on entend ça, parce que l'appellation d'origine protégée, c'est une extension européenne qui date des années 90, de l'appellation d'origine contrôlée, qui ont été créées en 1935. Alors quand on parle de la première appellation d'origine en 1925, on est surpris.
C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, c'est la première fois que l'on utilise les termes appellation d'origine, et cela relève d'une loi de 1919 qui utilisait pour la première fois ces termes-là. Auparavant, avant la Première Guerre mondiale, on a essayé de délimiter le territoire, notamment pour les vins, qui connaissaient véritablement une crise. Mais les législateurs ont défini le territoire en fonction des limites administratives, c'est-à-dire en utilisant les communes et les cantons. Et cela a donné en Champagne une révolte phénoménale en 1911, parce qu'en Champagne, on ne pouvait pas définir une appellation, ce que l'on appelait une appellation régionale, en fonction des communes. Cela excluait certains territoires qui, de tout temps, produisaient du champagne, et au contraire, cela admettait d'autres territoires qui ne produisaient pas de champagne. Donc du coup, la question était véritablement, mais qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce qu'un terroir? Et après cette crise et après la Première Guerre mondiale, donc la loi de 1919 pose pour la première fois les termes de donc appellation d'origine, en confiant aux acteurs locaux de définir le territoire suivant les us et coutumes. Ça, c'est une véritable donner d'importance, parce que en fait le législateur confiait aux acteurs de la filière le soin de définir entre eux le territoire tel qu'ils le pensaient et se porter vers la justice s'il y avait des problèmes.
Mais pourquoi Sylvie Vabre, le législateur s'est-il porté sur le Roquefort? Qu'est-ce qui se passait dans les années 20? Il y avait des fraudes? Qu'est-ce qui se passait?
Ah oui, alors, c'est-à-dire que c'est pas le législateur qui s'est intéressé au Roquefort, ce sont surtout les Roquefortais qui sont allés chercher cette loi de 1919 parce qu'ils y ont trouvé quelque chose d'intéressant. Alors qu'une définition communale, ça ne les intéressait pas. Une définition régionale ne les intéressait pas. Alors qu'est-ce qui les intéressait? En fait, après la Première Guerre mondiale, la filière Roquefort est véritablement en crise. Une crise là, grave, lourde, tout simplement parce que la Première Guerre mondiale a fermé tous les marchés extérieurs. Et il faut savoir qu'en 1913, le Roquefort, 30% du chiffre d'affaires du Roquefort était fait au commerce extérieur, à l'extérieur, dont 30% de ces 30%, de ces 25-30% vers les États-Unis. Et donc, au fur et à mesure de la guerre, évidemment, dès le début, les marchés vers l'Europe de l'Ouest ont été, de l'Est, pardon, ont été fermés. Les marchés américains ont été fermés à partir de 1917. Et donc, on se retrouvait avec des marchés fermés. Le marché français a absorbé un petit peu de Roquefort, mais il y avait évidemment une partie des paysans, des éleveurs qui étaient à la guerre, donc une vente de troupeaux parce qu'on ne pouvait plus s'en occuper. Et donc la production de Roquefort pendant la Première Guerre s'est réduite.
Oui, plus rien n'allait.
Plus rien n'allait, mais elle s'est maintenue parce qu'en fait, le lait de vache est apparu. Et il est apparu de plus en plus, de manière de plus en plus importante, à tel point qu'à la fin de la guerre, sortait des caves du Roquefort un nombre important de pain qui était fait avec du lait de vache.
Donc les Roquefortins ont estimé nécessaire de définir un cahier des charges pour que le Roquefort ce soit un fromage bien particulier. Ce cahier des charges est très précis d'ailleurs, Delphine Carle, il est très très précis parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut utiliser du Penicillium roqueforti, ce champignon, pour obtenir le bleu, qu'il faut le laisser affiner en cave naturelle, ce que vous faites à la maison Carle par exemple, mais il faut aussi du lait cru, non pas de vache, mais de brebis. Et du lait cru d'une race bien spécifique, la brebis Lacone. Delphine Carle.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle a, cette brebis?
Ah, ça, c'est une brebis qui s'adapte bien au climat rude de l'Aveyron. Voilà. Et qui donne un lait qui va être de qualité tout à fait adapté à fabriquer le Roquefort. Le lait de brebis c'est du bon gras et donc c'est très important pour la manière de le fabriquer pour conserver ses qualités nutritionnelles. Voilà. Puisque le Roquefort est un fromage au lait cru.
Oui, ça vous.
On ne va pas pasteuriser et on va garder toutes les qualités du lait. de ces fameuses brebis de race Lacone.
En combien de temps le roquefort prend-il sa couleur bleu-vert? En combien de temps le roquefort est-il prêt?
C'est une longue histoire, le roquefort.
Oui, mais on ne va pas la raconter là, c'est trop long la fabrication. Mais disons, combien de temps ça prend en tout?
Pour faire un roquefort, l'AOP a une date, enfin un moment très précis, de 90 jours à partir du moment où on le fabrique. C'est-à-dire que les fabricants de roquefort n'ont pas le droit de vendre le roquefort en dessous de 90 jours. Chez Carl, on va avoir un temps plus long, parce que plus c'est long, plus la phase de maturation est longue, plus votre fromage va être crémeux, plus il va avoir des arômes développés.
Plus c'est donc, long, plus c'est bon en quelque sorte.
Voilà, c'est pareil pour le roquefort.
Vous écoutez Les Bonnes Choses sur France Culture aujourd'hui. Nous nous intéressons au roquefort à l'occasion du 100e anniversaire de l'AOP Roquefort.
Vous hésitez pour choisir un mari, vous hésitez tous les jours de la vie, irai-je là ou bien ici, est-ce normal d'agir ainsi?
Oui, 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 pour le mari, hésiter, c'est être sage, mais cela devient folie
pour le choix d'un bon fromage.
Le Roquefort, le Phénix, est le Roquefort de haute qualité. Le Roquefort, le Phénix, soigneusement affiné dans les célèbres caves, est renommé dans le monde entier. À la fin de chaque repas, un délice, le Roquefort, le Phénix.
Bon, le Roquefort, le Phénix, ça date de 1978, hein, toujours cette publicité. Je ne suis pas sûre qu'il existe encore, Sylvie Vabre, le Roquefort, le Phénix.
Non, 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 c'est une marque qui n'existe plus, mais les choix sont excellents, je trouve, et... effectivement, chacun peut se souvenir des publicités de Roquefort qu'il a vues à la télévision lorsqu'il était enfant et lorsqu'il a grandi, parce qu'effectivement, chaque génération a sa publicité.
Aujourd'hui, je crois qu'il ne reste que 7 fabricants qui ont l'AOP. Donc Carl, dont vous êtes la représentante, Delphine Carl. Papillon, Gabriel Coulet, Vernière, Combe, par exemple. Delphine Carl?
Oui. Oui, nous sommes que 7 pour le moment. Tout à fait. 7 avec des fabrications différentes et donc on peut en trouver pour tous les goûts et toutes les bourses et la Maison Carl, sa spécificité comme vous le disiez, c'est qu'on a gardé le procédé traditionnel de celui de mon grand-père qui a commencer l'aventure du Roquefort en 1927, juste après...
L'AOP. L'AOP. Juste après l'AOP. Sylvie Vabre, juste un mot de à la fois d'histoire et d'actualité qui rejoint l'actualité, parce que vous disiez que le Roquefort avait développé sa renommée internationale dès le 19e siècle. C'est un pur produit du capitalisme, ce Roquefort, et c'est aussi en cela qu'il est intéressant, parce que dans le village de Roquefort-sur-Soulzon, les grandes entreprises commerciales ont commencé de se créer justement à cette époque-là, comme le Roquefort Société, et il se trouve que le Roquefort Société a été racheté en 1982 par Lactalis, qui aujourd'hui possède entre 70 et 80% du village. C'est le principal employeur qui fait travailler 2 éleveurs laitiers sur 3 quand même. Donc c'est intéressant de voir le Roquefort, qui est donc ce fromage français, aussi pur produit du capitalisme. Sylvie Vabre.
C'est tout à fait ça, c'est le capitalisme rural, tel qu'on en parle peu, mais il existe. Et à Roquefort, cela a pris forme. Alors en 1851, on a la preuve que véritablement Roquefort, la société des caves, donc aujourd'hui Roquefort Société a été créée. Elle a été créée sans doute en 1842, mais je n'ai pas trouvé la preuve. Mais elle a été créée par le biais d'une banque montpelliéraine qui s'appelait la Banque Durand, alors qui était un banquier négociant à l'époque, et qui avait pour objectif, qui a eu ensuite pour objectif de créer véritablement un monopole, c'est-à-dire contrôler toutes les caves du village de façon à contrôler à la fois l'approvisionnement et la vente. voyez. Mmh. Et donc, cette idée de monopole a été véritablement abandonnée, puis, mais malgré tout poursuivie par la Société des Caves. Et donc, c'est une, elle bascule, elle devient Société Anonyme en 1881. Auparavant, c'était une société commerciale, puis elle est cotée en bourse en 1901, et toutes les entreprises suivent ce chemin-là. Donc nous sommes ici véritablement dans un endroit tout à fait spécifique.
C'est spécifique, d'autant qu'on vient de dire qu'il y a 7 fabricants qui ont l'AOP aujourd'hui. Donc on a l'impression, face justement à ce géant qui est Lactalis et qui détient la société Roquefort Société, qu'il y a un peu David contre Goliath. Il y a eu un pied sur terre sur France Culture en 2020, réalisé par Inès Leroux, qui s'appelait Roquefort, la main mise de Lactalis, où il évoquait notamment un fromage qui était apparu au début des années 2020, le fameux bleu de brebis. Écoutez un extrait.
Nous, quand on a pris ça le 1er avril, on croyait que c'était un poisson. Mais non, c'était pas un poisson. C'était la vérité. Mais de suite, le sang n'a fait qu'un tour. Quand on nous en a pris ça aussi, ce fromage-là, c'est de la contrefaçon pure. Et ça, il va falloir le détruire.
La contrefaçon de Roquefort.
Ah oui, ça tout à fait. Ça veut dire celui qui connaît pas trop, il va se tromper. Et le packaging fait que oui, tout va vers la ressemblance forte au Roquefort, alors que ça n'est pas du tout. C'est du lait pasteurisé. Ce n'est même pas produit dans la laiterie pour faire le Roquefort. C'est dans une laiterie de vache à Rodez. Et nous, ce qu'on veut dénoncer surtout aujourd'hui, c'est que ce fromage-là, le bleu de brebis société, on pourra le faire en Pologne, on pourra le faire aux États-Unis, partout dans le monde, personne ne pourra l'empêcher. Alors, il est sans cahier de charge.
Alors que le Roquefort, vu qu'il est lié à une AOP, il ne peut être fait que dans les départements autour de Roquefort.
Uniquement, voilà, c'est ça. Mais nous, on parle aux anciens qui ont créé l'AOC. On a fait tout exploser en un an, deux ans. Là. On a fait tout exploser.
Alors Delphine Carl, est-ce que le bleu de brebis a disparu 5 ans plus tard?
Alors, non, je pense pas que le bleu de brebis ait disparu, mais ce n'est pas le même fromage, quoi.
Voilà, on a bien entendu, ça n'est pas du Roquefort.
Ça n'est pas du Roquefort, voilà. Le Roquefort, c'est du lait cru, et le bienfait du lait cru n'est plus à prouver. Le Roquefort est affiné dans des caves. Le Roquefort a un cahier des charges. Je reconnais la voix de ce producteur de lait.
Producteur, d'accord. Comment sait-on que le Roquefort est bon? Il faut que le bleu soit bien réparti, il faut que la pâte soit pas trop blanche.
Tout à fait. Il faut que la pâte soit ivoire, entre le blanc et l'ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait d'auréoles dessus. Il faut que ça soit bien humide, on voit de l'humidité sur la pâte de Roquefort. C'est très important d'être humide, pas sec, pas jaune, mais blanc jusqu'à ivoire.
Blanc ivoire et bleu vert pour la moisissure.
Voilà, bleu vert pour la moisissure. Et après ça dépend, chacun ses goûts.
Bien sûr, on a bien compris.
Jusqu'en haut, il y en a qui aiment très peu de bleu. Et bien, c'est le travail justement
de l'affineur.
De l'affineur pour proposer à ses clients un fromage qui correspond au goût de la région. C'est assez remarquable parce que chaque région de France a sa manière d'aimer le Roquefort.
Alors pour le déguster, il est conseillé de le sortir du frigo une heure avant de le manger. On peut le manger bien entendu entre le plat et le dessert sur un plateau de fromage, mais pas seulement. Beaucoup de chefs s'intéressent au Roquefort comme plat, comme mets, disons, comme produit à cuisiner. Comment on le mange? Avec du salé, mais aussi avec du sucré. Par exemple, Noémie Ognat, qui est avec nous par téléphone, le mange beaucoup avec des fruits. Bonjour Noémie Ognat.
Bonjour.
Chef aveyronnaise. En tant qu'aveyronnaise mariée à un aveyronnais, Noémie Ognat,
oui.
Vous êtes tombée dans le Roquefort quand vous étiez petite?
Alors, moi, je suis Aveyronnaise d'adoption et je suis mariée à un pur Aveyronnais. Nos enfants sont nés en Aveyron aussi. Et donc, j'ai envie de dire, en Aveyron, le Roquefort, c'est dans le biberon.
Oui, c'est ça. Et en plus, ça aide à digérer, paraît-il. Alors, fin 2022, exactement, début 2023, Noémie Ognat, la Confédération Générale du Roquefort, a lancé une battle culinaire sur les réseaux sociaux pour essayer de convaincre les nouvelles générations, pas seulement les bébés, mais les un peu plus âgés, de manger du Roquefort. Je ne sais pas si ça veut dire que l'image du Roquefort avait besoin de changer, mais en principe, en tout cas, deux chefs se mettaient au défi de marier le roquefort à d'autres ingrédients au fil d'une série qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le web en plusieurs manches. Comment l'avez-vous cuisiné, vous ? Comment aimez-vous le cuisiner ?
Alors moi, j'aime, bah forcément, je suis pâtissière, donc j'ai toujours une petite touche sucrée, un petit peu de douceur avec le roquefort qui a un petit peu de caractère. Et en fait, l'idée de ces battles qu'on a réalisées avec mon mari Quentin, parce que pour le coup, lui est cuisinier, donc on a deux univers totalement différents. Donc l'idée, c'était de voir ce panel d'associations qui était assez intéressante. Et moi, j'aime beaucoup en fait le marier avec les fruits de saison. Donc on est, ça peut être de la pêche mariée avec de la verveine, ça peut être de la fraise avec de la rhubarbe, toujours associé aussi des fleurs comestibles qui matchent très très bien avec le roquefort. Les vaches, en tout cas en Aveyron, voilà, on a un côté très printanier dans tout ça. Et donc, les fleurs comestibles se marient très, très bien aussi avec le roquefort. Je pense au bégonia qui va apporter des petites touches d'acidité, la fleur de tagette qui va apporter des petites notes légèrement fruitées, citronnées, épicées. Donc, le fruit, principalement, match très bien. Et une association qui arrive plutôt vers l'automne sur la physalis, ça marche extrêmement bien avec le roquefort.
Et entre les deux, c'est-à-dire qu'entre les fruits de saison dont vous avez parlé, la pêche, la fraise et l'automne que vous venez d'évoquer, il y a quoi ? Il y a tout le printemps. Alors à ce moment-là, vous faites quoi ?
Vous parlez d'une recette
des fruits, parce que les fruits de saison, par exemple, avec la pomme, avec la poire, ça se marie bien, le roquefort ?
Alors pomme, poire, surtout la poire, la pomme, c'est un classique. Le raisin frais, forcément. Moi, déjà petite, ma mère mangeait du roquefort avec du raisin frais. Donc là, on n'est plus sur des associations type classique. Mais là où on peut pimper un petit peu tout ça, c'est par exemple la poire, où on va ajouter par exemple un poivre de Timut dessus, sur cette poire, qui va venir ressortir un petit côté pamplemousse, un petit côté agrume, et qui se marie très bien avec le roquefort. Aujourd'hui, actuellement, on est encore sur la saisonnalité de la poire, sur la saisonnalité de la pomme. Forcément, ça matche très bien. Et j'ai envie de dire aux consommateurs, on a juste à suivre la saisonnalité pour varier les plaisirs, pour varier avec le roquefort. Et j'ai envie de dire, n'importe quel type de fruit, même on va être sur du coin, on peut aller sur de nombreux fruits et ça marchera à chaque fois.
De toute façon, il faut essayer. Hein. Vous nous avez proposé d'essayer, alors comme ça on suit vos conseils, vous nous proposez une recette pour notre site, crème de roquefort en espuma, confit de physalis ou les premières fraises, herbes sauvages, crumble aux noix et roquefort. Un grand merci Noémie Ognat, un grand merci également à Delphine Carle et un grand merci à Sylvie Vabre. Sur notre page internet, sur franceculture.fr, tous les événements seront retrouvés, puisque c'est tous les événements à venir de cette année anniversaire 2025, à commencer par un grand colloque qui réunira experts et passionnés autour de l'histoire et de l'avenir de l'AOP et tout le reste. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application Radio France avec la petite équipe des bonnes choses. C'est Amboutata et aujourd'hui à la préparation Audrey Carme, à la réalisation Taïsia Froidur qu'on embrasse fort et Annelise Assada qu'on remercie pour sa disponibilité et à la prise de son Jean-Guy Lermège, eh bien nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.